C'est sans Jésus de là, c'est pas
ça. On va commencer.
Allô, ils ont juste en ça.
Oui.
Oui. Oui.
Oui. On a été vraiment privilégiés, c'est bien l'occasion de le dire, d'avoir Marc et Anne avec nous pendant ces deux premiers mois. Comme ça, on n'était pas les seuls de notre génération sur le site du camp. Ça compte. Je vous invite à ouvrir vos Bibles ce soir, parce que c'est à Jérémie chapitre 2. Jérémie chapitre 2, on verra à quelle vitesse on parcourt. J'ai dit à Miko que une bonne partie de l'année on est quand même là, même quand l'équipe est ici avec nous au camp, on est quand même là le mardi soir. On a nos cours en début de semaine et c'est le week-end qu'on part. Donc pensez à Limoges déjà pour la mi-octobre. L'équipe va partir déjà mercredi midi pour distribuer 10 000 prospectus entre jeudi et vendredi, et puis vendredi soir, samedi, dimanche, 3 conférences d'évangélisation. Puis c'est le congrès de la Belette à la fin du mois d'octobre. Puis il y a d'autres ouvertures. On a aussi une action d'évangélisation ici même, début novembre. Et donc on prie pour cela et on a pu, l'équipe a pu couvrir tout Aurignac, tout le Languedoc, tout Cassagne-Aber et quelques autres petits bleds. Donc, on loue le Seigneur pour cette disponibilité et cette occasion d'être ensemble. Alors, ce soir, en Jérémie chapitre 2, dans Jérémie chapitre 1, c'est l'appel de Jérémie. Dieu l'oblige à être le prophète. Il a dit en Timothée, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Mais dans l'Ancien Testament, notamment, beaucoup de serviteurs de Dieu n'aspiraient pas au service que Dieu leur a demandé de faire, mais il n'a jamais lâché. Il les a appelés, il les a poussés, il les a soutenus. Et je pense qu'aucun d'eux ne pouvait dire qu'il a regretté d'avoir servi Dieu, mais ce n'était pas toujours facile. Et Jérémie est de cela. Ce n'est pas facile son message. Ce n'est pas du tout le glorieux message de l'Évangile que nous prêchons. Nous, même si personne ne voulait nous entendre, on a une joie simplement à annoncer une si bonne nouvelle. Mais ce n'était pas le cas du prophète Jérémie. Et dans ce chapitre 2, c'est le premier message qu'il porte. C'est la deuxième année du réveil sous le règne de Josias. Donc les choses vont plutôt dans le bon sens spirituellement, mais Dieu avait déjà décrété, avait déjà décidé qu'après ce réveil, sachant que le peuple retournerait dans l'idolâtrie, qu'il amènerait le jugement, et Jérémie doit annoncer ce jugement. Ça, c'est pas facile, hein, d'annoncer un jugement alors que le peuple semble revenir à l'Éternel. Mais ce réveil, Josias, lui, était vraiment près de Dieu, mais le peuple l'a suivi pour la forme. Mais leur cœur n'était pas même pas entier à l'Éternel. La preuve, dès que Josias est mort, le peuple est retombé dans les mêmes travers. Alors, ce message de Jérémie à la porte du temple, sans doute, c'est sur l'idolâtrie. Ce message, c'est sur l'idolâtrie. On ne peut pas vraiment lire tout le passage, mais regardez verset 2, déjà. Dieu dit, « Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte. Israël était consacré à l'Éternel. » C'est comme un vieux couple, mais la femme dit « Je ne veux plus te voir » ou le mari dit, et l'autre dit « Tu te souviens quand tu étais jeune et vraiment amoureux l'un de l'autre. Tu te souviens combien c'était bien. Dieu, il essaie de plaider avec son peuple. Je me souviens quand vous m'aimiez. Ça fait longtemps que vous ne m'aimiez plus. » Alors, Israël avait suivi l'Éternel dans un désert, il n'y avait aucune sécurité, il n'y avait que Dieu, et Israël, c'était bien. Ils étaient contents, ils étaient avec l'Éternel. Et Dieu aimait Israël, le nourrissait tous les jours, lui donnait tout ce qu'il fallait. Quand Israël est sorti avec l'Éternel dans le désert de Sinaï, pendant cette première année, c'est un peu le temps des fiançailles. Les deux apprenaient à se connaître. Ça faisait des dizaines et même des centaines d'années qu'on n'avait pas eu un prophète de l'Éternel auprès de ses esclaves en Égypte. Puis Moïse arrive. L'Éternel vous aime, il veut vous sortir de là. Il les sort de là. C'est comme des fiançailles. C'est des moments merveilleux. Et alors, ils se marient. On fait l'alliance du mariage sur le mont Sinaï. Dieu donne le contrat de mariage. Et il sera dit, tout ce que l'Éternel dit, nous le ferons. Nous sommes de tout cœur avec l'Éternel, on veut être son peuple. Alors ils sont officiellement liés par la loi du mont Sinaï, l'un à l'autre. Donc, comment est-ce qu'un peuple peut tomber dans l'idolâtrie quand ça a si bien commencé avec tant d'amour, quand le mariage était si beau? Mais comment est-ce que les gens peuvent tomber dans l'idolâtrie quand Dieu les a tant protégés? Ça c'est le verset 3. Israël était la nation choisie, la propriété personnelle de Dieu. Et quand un peuple s'amusait à toucher et à attaquer le peuple d'Israël, c'est Dieu qui les défendait. L'Égypte, les Amalécites, les Moabites, les Cananéens, tous ces gens ont été décimés par l'Éternel pour avoir voulu toucher Israël. Et Dieu dit, par exemple, dans le verset, Israël était consacré à l'Éternel, verset 3, il était les prémices de son revenu, tout ce qui en mangeait se rendait coupable. C'est-à-dire, Israël, c'était comme le fruit de l'Éternel. Et quand les autres nations venaient, on a croqué nous aussi. Dieu dit, non, pas les pâtes, ce ne sont pas pour vous, c'est mon peuple à moi, et je vais les défendre. Il y a une loyauté. Mais ce peuple est face à un choix. Est-ce qu'on va suivre ce Dieu protecteur ou est-ce qu'on va s'éloigner de lui? Et qu'est-ce qu'ils ont pris comme option? On va s'éloigner de l'Éternel. On va aller vers les idoles. Et Dieu dit, mais pourquoi? Je suis irréprochable. Ça, c'est les versets 6 et verset 7. Dieu dit, mais comment? Verset 5. Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi? Qu'est-ce que vous m'avez trouvé comme défaut? Aucun. Et Dieu dit, ils sont allés dans le Sinaï et dans les Palestines, dans une terre, verset 6, une terre aride et pleine de fosses. Il y avait dans le territoire qu'ils ont traversé beaucoup de puits de sable mouvant. On dit de ces sables mouvants, une bête comme un âne, qui était maté avec un chargement, pouvait s'enfoncer immédiatement jusqu'au genou. Quand on avait marre les deux pattes avant, jusqu'au genou avec le sable mouvant, elle va mourir. Et imaginez traverser des endroits marécageux, dirigés par l'Éternel, un territoire que vous n'avez jamais traversé. Dieu les a dirigés précisément entre les puits de sable mouvant et les a protégés. Eux, ils ont suivi l'Éternel. Dieu les a protégés. Et puis, Dieu leur donne un pays promis aussi. C'est vraiment un pays clé en main. Hein? Verset 7, « Je vous ai fait venir dans un pays semblable à un verger pour que vous en mangiez les fruits et les meilleures productions. Aucun travail. Vous arrivez, vous rendez maître de la ville, tout le monde entre, on se met les valises, ma maison est déjà là. » On va dans le jardin, il y a des fruits qui sont déjà là, on va dans le verger, il y a déjà des fruits, et d'autres gens les ont bâtis, et vous entrez, Dieu vous donne la victoire, et vous avez une maison clé en main pour vous. Tout le peuple, c'était comme ça. Et Dieu dit, pourquoi vous me quittez? Mais ces gens, entrant dans ce pays, se sont vite habitués au luxe, et sont devenus indifférents à Dieu. Et c'est ce qu'il dit, les sacrificateurs de l'autorité religieuse, les scribes, les enseignants, c'est dans le verset 8, les sacrificateurs n'ont pas dit où est l'Éternel. Ils n'ont pas cherché Dieu. Où est l'Éternel? Prions, cherchons Dieu. On est bien là, Dieu. Les dépositaires de la loi, c'est les scribes, ne m'ont pas connu. Les pasteurs, les princes, ceux qui dirigeaient le peuple, n'ont pas connu l'Éternel. Et les prophètes, ils prophétisaient par qui? Par Baal, pas par l'Éternel, mais par Baal. C'est normal. C'est normal après tout ce que Dieu avait fait pour eux. Comment on peut oublier si vite? Et Dieu dit, eh bien, ils sont allés après des dieux qui ne sont d'aucun secours. Verset 8. Vous quittez un Dieu, dit Jérémie, vous quittez un Dieu qui vous a tout donné, et vous allez adorer des dieux qui ne peuvent rien vous donner. Ça n'a pas de bon sens. Il y a un paradoxe, il y a une folie là-dedans. Et dans le verset 10 et 11, il dit, mais il est propre à témoin. Il dit, bon, quittez votre pays, allez du côté de la Méditerranée et descendez voir un peu tous les peuples. Allez à Chypre, chez les Jonquitimes, toute la côte méditerranée jusqu'en Grèce, toute cette partie. Allez voir un peu les différents peuples là-bas. Allez voir les gens de Kedar, ça c'est les descendants d'Ismaël, les Bédouins, les Arabes. Allez voir ces gens-là. Vous n'allez jamais trouver un peuple qui a quitté ses dieux. C'était des dieux de rien, mais au moins on restait fidèle à ces dieux. Il dit, vous, vous avez quitté le seul vrai Dieu que je suis, et vous êtes allé après d'autres dieux que vous ne connaissiez même pas. Comment vous avez pu quitter un vrai Dieu pour un faux Dieu? Je vais vous dire pourquoi on peut quitter un vrai Dieu pour un faux Dieu, parce que le faux Dieu, comme il est imaginaire, on lui fait dire ce qu'on veut qu'il dise. Mais le vrai Dieu, c'est pas comme une poupée, c'est pas comme une marionnette. Vous avez jamais vu une petite fille qui joue avec sa poupée? Elle tient toute une conversation. Alors ma petite poupée, ma petite chérie, comment tu vas aujourd'hui? Mais ça va bien. Et alors tu as besoin d'une douche? Oui. Et tu veux que je te la donne? Oui. Ah ben, la fille est toujours contente, la poupée répond toujours bien, parce que c'est elle qui lui met les paroles dans la bouche. Hein? Et avec les dents, c'est possible. Tu m'aimes, idole? Oui. Ah, mais tu vois, mon idole m'aime. Et tu vas me protéger si les ennemis? Oui, 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 oui. Ah, mais tu vois, mon idole a promis de me protéger. Mais c'est de la stupidité. Mais au moins, il ne me contredit jamais. Tandis que le Dieu vivant, lui, peut nous contredire souvent, hein, et nous reprend. Donc, c'est vrai que c'est arrangeant d'être idolâtre. Et puis, une provocation. Dieu dit verset 13, mon peuple a commis un double péché, ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Quand ils avaient le rocher derrière eux qui les suivait, ce rocher c'était Christ, dit Paul, et des fleuves d'eau vive sont sortis pour les abreuver. Puis Jésus, le grand jour de la fête, si quelqu'un croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il dit, vous avez abandonné quelqu'un qui vous donnait une richesse pour aller creuser des trous pour l'eau de puits. Et ces trous ne vont même pas fichu de garder l'eau dedans. Ça fuit par les crevasses et puis vous n'avez plus rien. Vous restez sur votre soi. En matière de provocation, c'est vraiment le comble. Dieu dirige dans la bonne voie et on le quitte. Verset 17. Cela ne t'arrivera pas parce que tu as abandonné l'Éternel, ton Dieu, lorsqu'il te dirigeait dans la bonne voie. Dieu disait, voilà, écoutez, regardez mon peuple, ça c'est la bonne voie. C'est la loi du succès, c'est la loi de la prospérité, c'est la loi de l'obéissance, c'est la loi de la protection. Allez dans cette voie, c'est sans danger, je vous accompagne. Oh ben non, on trouve un petit chemin par là qui n'a nulle part et pouf! On part par là et on laisse Dieu sur la bonne voie, on le laisse tout seul et on s'en va sur le chemin dangereux qui mène à la perdition. C'est quand même incroyable. Ça, c'est vraiment le paradoxe de l'idolâtrie. C'est une provocation à l'Éternel. Alors, la pratique de l'idolâtrie, c'est les versets 18. Maintenant, qu'as-tu à faire d'aller en Égypte pour boire l'eau du Nil? Qu'as-tu à faire d'aller en Assyrie pour boire l'eau du fleuve? Qu'est-ce que c'est que ça encore? C'est une coutume païenne qui consistait à chercher de la vigueur et de la force dans une eau bénite, dans l'eau bénite de ces fleuves. C'est un peu comme le Gange en Inde. Pour eux, disaient les dieux, c'est un dieu, le fleuve, qui était très puissant, et les gens qui faisaient le pèlerinage pour aller se baigner et boire l'eau de ce fleuve avaient une bénédiction supplémentaire. Vous parlez d'une supercherie, d'une bêtise, d'un fétichisme. Il dit, je suis le vrai Dieu, je suis à côté de vous, je vous aime, je vous parle, je vous protège. Et vous, vous allez faire des centaines de kilomètres pour aller boire dans une eau de l'Euphrate ou dans l'eau du Nil. Et pour chercher la bénédiction des dieux de ces pays-là, mais vous êtes tombé sur la tête, pour ainsi dire. Le Nil en hébreu c'est Chishor et ça veut dire noir. Parce que le Nil donne un grand delta qui est plein d'alluvions noires. Donc c'est un fleuve un peu noir. C'est même pas très propre. Souvenez quand Naaman a dit que je ne veux pas aller dans le Jourdain, c'est ça, je préfère les fleuves chez moi, ils sont propres. Dieu dit, vous allez voir les eaux du Nil avec toute cette pousse, enfin, toute cette boue que ça charrie, et vous cherchez un peu de bénédiction des dieux égyptiens, alors que je suis votre Dieu, je suis sur place, je vous aime. Et alors, il pratiquait la prière aux idoles aussi. Regardez versets 27 et 28. Ils disent au bois, tu es mon père, et à la pierre, tu m'as donné la vie. Car ils me tournent le dos, ils ne me regardent pas, et quand ils sont dans le malheur, ils disent, lève-toi, sauve-nous. Ça, quand on a un problème, et bien là, on se tourne vers le vrai Dieu, parce que là, on a un vrai problème, on se tourne vers le vrai Dieu. Mais quand tout va bien, on s'accommode très bien des faux dieux. Alors Dieu, verset 28, où donc sont tes dieux que tu t'es fait? Mais qu'ils se lèvent s'ils peuvent te sauver au temps du malheur. Tu as autant de dieux que de villes, ô Judas. Autant de dieux que de villes. C'était la pratique de ces pays cananéens. Il y avait la divinité nationale, mais il y avait des petits dieux locaux aussi. Plus il y en a, mieux ça vaut. Et c'est ça à l'origine de l'idée des saints patrons de nos villages catholiques. Et vous avez les statues de Marie à Paris, la Moniale, et à droite et à gauche, et alors on a érigé la mère de Jésus-Christ en une déesse, en une sainte patronne. Le pape Jean-Paul II a avoué, il a dédicacé plusieurs fois la terre à la Vierge Marie, comme si la terre lui appartenait. Non mais je veux dire, on se permet de ces choses. Mais c'est ça, ça vient de là. Nous avons notre saint. À Escanegrave, on avait un saint local, ça s'appelait Saint-Savin. On a des saints en arc-en-ciel, mais on avait un saint local, soi-disant un évangéliste des siècles passés, et alors on avait trouvé de ces reliques à côté des reliques d'un bœuf et tout ça, et puis on en a fait un monastère, ça remonte à 150 ans, et des histoires rocambolesques du saint local d'Escanegrave. Et alors l'église catholique avait trouvé que c'était un vrai saint. Et quelques dizaines d'années après, ils ont rouvert le dossier, et ils ont réétudié, et ils ont conclu que Saint-Savin n'a jamais existé. Mais les gens d'Escanegrave, ils y tiennent, parce qu'ils en avaient rien en plus, mais ils disent non, nous, on y croit. Hein. Oui, voilà, c'est notre saint à nous, Escanegrave. Mais c'est dire à quel point notre ridicule, mais ça revient directement à ces saints locaux, à ces petits dieux locaux, c'est une idée païenne. Ensuite, il y a une passion dans cette idolâtrie. Non seulement ils pratiquent l'idolâtrie, mais ils sont passionnés par cette idolâtrie. Ils aiment ça. Et versets 20 à 25, ça commence avec déjà l'insatisfaction avec la relation avec Dieu. Verset 20, tu as dès longtemps brisé ton joug, rompu tes liens, et tu as dit, je ne veux plus être dans la servitude. C'est-à-dire, je ne veux plus obéir à Dieu. Je ne veux plus être obligé de faire ce que Dieu me dit. Je veux ma liberté. Mais regardez, mais sur toute colline élevée et sous tout arbre vert, tu t'es courbé comme une prostituée. Tu veux ta liberté, mais il y en a d'autres qui te rendent bien plus esclave que je ne l'ai jamais fait. Tu vas vers l'idolâtrie, mais tu verras, c'est eux qui vont abuser de toi. Alors que moi, tu m'étais soumise, mais je m'occupais de toi. J'avais ton intérêt à cœur. Et alors, on avait des petites collines. Il parle sous chaque colline ou sous chaque arbre vert. Les païens, ils avaient sur les petites collines, ils mettaient plusieurs arbres. Et ils mettaient un petit autel. Et puis taillé grossièrement peu à la hache un tronc d'arbre. Soit c'était Baal avec un visage effrayant, soit c'était une attaque avec des formes un peu, bon, vous comprenez ce que je veux dire, pour symboliser la fertilité, et on allait adorer ces dieux. Mais, bien sûr, on faisait un sacrifice, on faisait des repas, on y buvait, on faisait des rites d'initiation, on avait des orgies, on avait des repas, et parfois même on sacrifiait des enfants dans ces petits fourrés d'arbres sur ces collines. Et Dieu dit dans les versets 23, « Comment dirais-tu, je ne me suis point souillé, je ne suis point allé après les bâles ?» Ils essaient de se cacher. Ils essaient de dire, « Non, mais non, Dieu, mais non, mais je n'ai pas fait ça quand même. Je ne t'ai pas été infidèle. Si peu, n'est-ce pas ?» Et Dieu les pistait. Regardez ce qu'il dit. Verset 23, « Regarde tes pas dans la vallée, regarde, reconnais ce que tu as fait. » Alors, ils essaient de se laver, ils essaient de se laver, de se blanchir pour faire croire qu'ils n'ont pas été idolâtres. Et Dieu leur dit, « Quand vous vous laveriez avec du nitre, verset 22, quand tu avalerais beaucoup de potasse, ton iniquité resterait marquée devant moi, dit le Seigneur. » Le nitre, ce n'était pas le salpêtre comme aujourd'hui, mais c'était un matériau alcalin, un minéral alcalin, et qui est déposé au fond des lacs. Et ça apparaît lorsque l'eau s'évapore, c'est un peu comme les salins, vous savez. Et c'est employé pour le lavage, on s'en servait pour laver des choses, comme un peu de l'eau de javel, c'était quelque chose d'assez fort, et une réaction chimique, pour laver des choses. Donc il dit, même si vous vous lavez avec ça pour vous blanchir, ça ne marchera pas. La potasse, c'était un carbonat obtenu en brûlant diverses plantes. Et on mélangeait ça à l'huile et on l'employait comme savon, la potasse. Du nitre, de la potasse, c'était des agents vraiment nettoyants à l'époque. On dirait aujourd'hui, même si tu te ferais au cache-cache, tu n'arriverais pas à enlever ta saleté. Vous allez payer votre péché, votre souillure ne disparaît pas. Et il dit, vous êtes, verset 23, regardez pas dans la vallée. Quelle vallée? Et quand on parle d'idolâtrie, on parle d'une vallée juste en dehors de Jérusalem. Entre Jérusalem et la colline en face, c'était la vallée de Hinnom. Et cette vallée de Hinnom, c'était la décharge municipale. Donc, il y avait un feu constamment qui brûlait là. Et l'AGN aussi, l'AGN, c'est-à-dire un endroit où un feu brûle continuellement des immondices, c'est la décharge publique. C'est une image frappante de l'enfer. Qu'est-ce qu'il y a dans une décharge? Dans une décharge, il y a des objets qui autrefois avaient une valeur. Mais soit ces objets sont cassés, soit ils se sont usés, et les gens qui tenaient et qui les avaient achetés n'en veulent plus. Tout ce qu'ils veulent, c'est se débarrasser. Ce sont des objets qui ne peuvent plus servir. Parce qu'ils sont trop vieux ou cassés. Ils ont perdu de la valeur. Ils avaient de la valeur, mais ils l'ont perdu. Et on les brûle. Et ça, c'est l'image même de l'enfer. C'est des gens qui sont en enfer, ce sont des gens qui auraient dû aller au ciel. C'est des gens qui avaient de la valeur. Mais comme ils ont refusé le recyclage proposé par l'Éternel, ils ont refusé la réhabilitation, ils sont mis dans la décharge. Et ils sont laissés là. Triste. Des gens qui vont passer l'éternité loin de Dieu. Dans cette vallée de Hinnom, il faisait des sacrifices d'enfants. Et comme il y avait toujours du feu, ils couraient sur le feu et faisaient passer leurs enfants à travers le feu. Bon, ça c'est vraiment le niveau de douloterie. Hein? On fait ça dans la décharge municipale. Ça ne vaut pas haut. Ça n'a rien de noble, ça n'a rien de pur, ça n'a rien de grandiose, de bénéfique, d'encourageant. C'est vulgaire, c'est triste, c'est laid. Et le péché finit comme ça. Ah oui, c'est vrai qu'ils savent mettre les atours, mais ça finit à la décharge municipale. Regardez les gens qui prennent de la drogue, regardez les gens qui boivent, les gens qui abusent du péché. Où est-ce qu'ils finissent? Dans le palais? Ils finissent dans les caniveaux. Ils finissent dehors. Des pauvres gens. brisés par le péché. Quatre, de véritables déchets humains. Quand on est créateur des hommes, on comprend que Dieu puisse haïr le péché quand il voit ce que le péché a comme effet sur les gens qu'il avait dans la valeur et pour lesquels il avait envisagé de grandes choses. De le voir finir comme ça, c'est trop triste. Alors, non seulement ils continuent comme ça, ils essaient de cacher leur péché, mais ça ne marche pas, ils trompent Dieu. Et dans le verset 23, Dieu compare son peuple à un dromadaire, à la course légère et vagabonde. Alors bon, ça va. La dromadaire, c'est une jeune chamelle. Moi, je ne connais pas trop les dromadaires, mais peut-être que vous en connaissez plus là-dessus. Mais les dromadaires, quand elles sont jeunes et quand elles doivent trouver un compagnon pour avoir des chameaux, ben, elle va chercher un chameau par là qui fait la paire et elle va courir. C'est elle qui va chercher parce qu'elle veut vraiment avoir une progéniture et elle va chercher. Et il dit, vous êtes comme un dromadaire. Vous courez, mais vous courez. On veut se prostituer. On a un mari légitime, c'est l'Éternel, mais on ne veut plus. On veut avoir des aventures. On veut chercher autre part. Vous avez un dieu, mais moche, moque, un visage horrible. Il a le sang, c'est un vampire. C'est... Ah oui, mais n'importe quoi, c'est rien. On veut un dieu. Ils prennent le plus moche qui soit. Tout sauf l'Éternel. Et puis il dit, vous êtes comme des ânes, c'est pareil, à le temps reniflant l'air pour détecter l'odeur d'un mâle. Elle se met sur le chemin des mâles. Quand il dit, son mois, c'est le mois de fertilité, où cet instinct est le plus fort chez l'ânes. Chez l'ânes, c'est normal. Mais chez les gens qui se comportent comme des ânes et des ânes, ce n'est pas normal. Cette passion pour l'idolâtrie. Il faut que j'ai ce que je veux. Je veux mon plaisir. Et puis, donc ça n'a rien de raffiné. C'est vulgaire, l'idolâtrie. Puis la détermination, verset 25. Tout ce qui l'achète, ne t'expose pas à avoir les pieds nus. Ne dessèche pas ton gosier. Mais tu dis, c'est en vain. Non, car j'aime les dieux étrangers. Je veux aller après eux. Se déchausser, ne déchausse pas, ça veut dire n'use pas tes sandales à force de courir après les idoles. Ou ça veut dire ne fais pas des pénitences pieds nus devant les idoles. Ne t'enlève pas. Garde tes chaussures, tes sandales, tes tongs sur tes pieds. Ne te dépouille pas pour des idoles. Et puis il dit aussi, ne dessèche pas ton gosier. Ça veut dire, écoute, arrête de crier à longueur de journée aux idoles. Oh, je veux une idole. Oh, je veux une idole. Je dis, mais repose-toi. Retourne vers moi. Je te donnerai le repos et la sécurité. La paix. Non. Ils préfèrent crier toute la journée comme ils l'ont fait avec Baal. Vous savez, quand Élie est... Oh Baal, écoute-nous, oh Baal, écoute-nous, ça a duré plus de 6 heures. Ils ont crié, ils ont usé leur voix, et après l'après-midi, ils ont dit peut-être un peu de sang pour attirer son attention, ils ont pris des couteaux, ils ont commencé à s'entailler dedans, en espérant que Baal les écoute parce qu'ils versent leur propre sang, et Dieu dit, mais vous êtes ridicules. Vous préférez vous tailler avec des couteaux et de passer votre journée à crier vers un Dieu qui n'existe pas, plutôt que de vous repentir et de vous tourner vers moi, le Dieu qui existe. Mais à quel point peut-on être bête? C'est plus que bête, c'est la rébellion qui amène carrément à la folie. Et cette rébellion humaine, non, j'aime les idoles, je veux aller, c'est la volonté, je veux pécher. Et nous connaissons tous des chrétiens qui disent, je sais que je ne fais pas ce que Dieu veut, mais j'ai envie de le faire quand même. Je vais faire ce que je veux. Je me souviens de cette dame qui a dit, je veux divorcer avec mon mari et ni Dieu ni le diable ne pourra m'arrêter. Quel langage! Si toutefois c'est un enfant de Dieu. Le prix de cette idolâtrie, Dieu va juger Israël en le vidant. Il va vider le territoire de ses habitants. Alors c'est particulièrement ironique parce qu'ils avaient adoré les dieux des Babyloniens. Ils adoraient les dieux des Assyriens. Ils adoraient les dieux des Égyptiens. Et Dieu dit, eh bien, vous admirez tellement ces gens, vous admirez tellement leurs dieux, ce sont ces gens-là qui vont vous punir, mais de ma part. C'est l'ironie. Les lionceaux, dans le verset 15, contre lui, les lionceaux rugissent. Ça, c'était les Babyloniens. Alors, c'est bon, c'est un lion. Nof, vous avez le mot là, verset 16, même les enfants de Nof et de Tahpanès te briseront le sommet de la tête. Ça, c'est deux villes en Égypte. Nof, c'est Memphis. En Égypte inférieure, près de, aujourd'hui, le Caire. Tahpanès, c'était une ville près de la frontière, une ville avec laquelle ils avaient beaucoup de commerce. Il dit, les villes égyptiennes vont venir vous briser la tête. Pharaon va arriver, il va imposer un lourd tribut. Et il va venir contre les Babyloniens, et Josias, qui est allié avec les Babyloniens, va lui combattre Pharaon et va perdre sa vie dans la bataille. Un gâchis. Au lieu de se tourner vers l'Éternel, ils font alliance, ils paient beaucoup d'argent pour avoir la sécurité de ces trois pays, et ces trois pays prennent leur argent, et après, dans la première occasion, ils les cassent. Ils les ruinent. Le prix de l'idolâtrie, c'est un cœur endurci. Ses enfants n'écoutent pas. Verset 29. Pourquoi contesteriez-vous avec moi? Vous m'avez tous été infidèles, dit l'Éternel. En vain ai-je frappé vos enfants, ils n'ont point eu égard à la correction. Vous savez, quand vous avez un enfant, vous devez le fesser et puis il vous regarde. Tu ne me feras pas plier. Je le sens complètement démuni. Qu'est-ce qui va me faire plier? Il s'en va vers la perdition et il ne veut rien écouter. Enfermé dans sa rébellion. Le crime, on veut utiliser le tromperie. Verset 33. Comme tu es habile dans tes voies pour chercher ce que tu aimes. C'est même au crime que tu les exerces. Le sang de pauvres innocents que tu n'as pas surpris faisant effraction. Malgré cela, tu dis, je suis innocente. Certainement, sa colère s'est détournée de moi. D'ailleurs, Dieu a fait plusieurs fois, il a fait accrocher une armée. C'était menaçant. Oh Seigneur, revenir à toi, puis l'armée s'en va. Ah, vous allez revenir à l'Éternel. Ils sont partis, c'est bon. Puis l'armée revient, oh Seigneur, et puis il n'y a pas de repentance. On ne veut pas que le commun fasse du mal. On revient à toi, Seigneur, et tout, parce que là, et après, dès que le danger est passé, ah, revenons péché. Dieu dit, tout dégoûtant, votre attitude. C'est hypocrisé. Je n'ai pas péché, je suis innocent. Que disent les gens qui ont tué des multirécidivistes? Qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce qu'ils disent, je suis un criminel, c'est horrible, j'ai fait tant de mal à tant de gens, j'ai fait tant souffrir? Non. Moi, j'ai rien fait. Ah, c'est pas de ma faute. C'est pas moi. Ça, c'est la société qui m'a rendu comme ça. Mon père, il me battait, ma mère n'était jamais là, mes grands frères étaient méchants. Eh bien, je suis une pauvre victime innocente de mon entourage. Moi, j'ai rien fait de mal. C'est comme ça que les criminels les plus endurcis parlent. Ils n'ont aucune conscience de leur péché. Alors, ces alliés païens en lesquels ils se confiaient sont devenus des traîtres. Ils ont fait alliance avec les Assyriens. Les Assyriens viennent et déportent les 10 tribus. Au nord, en 722 avant Jésus-Christ. Bon, alors ils se tournent vers les Babyloniens. Les Babyloniens viennent trois fois les emporter, 606, 587 et 597 et 586 avant Jésus-Christ. Alors ils sont tournés vers l'Égypte. En bas l'Égypte, eh bien eux, ils leur ont imposé des lourds impôts. Et quand ils étaient en danger, ils ont refusé de venir les aider. Pourquoi ces pays n'ont-ils pas aidé Israël? Parce que c'est des pays égoïstes, c'est normal. Mais Dieu a fait en sorte que ces pays n'aident pas son peuple pour leur montrer « Je suis le seul qui peut vraiment vous aider. Si vous ne venez pas chercher mon aide, vous ne trouverez de l'aide nulle part ailleurs. Les autres sont intéressés par leur propre richesse. Moi, je suis intéressé par vous. » Parfois, on nous miroite des choses. Mais les gens ont quelque chose à gagner en nous faisant tomber dans la panne. Mais Dieu, quand il nous demande de lui obéir, il n'a rien à gagner. Qu'est-ce qu'il pourrait gagner avec nous? Qu'est-ce qu'on pourrait lui apporter qu'il n'a pas déjà? Non, mais je veux dire, hein? Qu'est-ce qu'on pourrait lui apporter qu'il ne possède déjà? S'il le fait, c'est parce qu'il nous aime. C'est un amour désintéressé. Il nous aime parce qu'il nous aime, parce qu'il est un Dieu d'amour, pas parce qu'on est digne. Quelle terrible chose! Et à la fin, il dit, vous verrez que c'est une chose amère de se détourner de l'Éternel. Voilà le premier message prêché par Jérémie, encore un très jeune prophète. Oui, qu'est-ce que la seule chose que nous avons à faire, c'est croire. Quand Dieu parle, il faut le croire. Obéir à Dieu. Quand on obéit à Dieu, là on peut prier Dieu. Et quand on prie Dieu, on peut compter sur Dieu. Ça c'est ce que Dieu veut que nous fassions. Notre Dieu et Père, merci pour ces instants, merci pour ce prophète Jérémie, merci pour son message qui est tellement puissant et tellement triste en même temps, mais il a donné loyalement. Ce peuple ne pouvait pas dire qu'il n'était pas prévenu. Et ton jugement était juste parce que tu as averti ton peuple longtemps à l'avance avant de lui faire subir le jugement. Et nous aussi, quand tu es obligé de nous châtier, on ne peut pas dire qu'on n'avait pas vu venir le châtiment. Parce que tu nous préviens, et tu nous préviens encore. Tu ne veux pas nous châtier. Tu veux qu'on se repente. Tu veux qu'on se tourne vers toi. Aide-nous à ne pas être des gens rebelles. Aide-nous à ne pas être des gens hypocrites, menteurs, trompés par nous-mêmes. Mais être humbles, obéissants. Par Jésus-Christ. Amen. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse, notre temps est passé. On se verra de toute façon pour l'Église, on se verra sinon avant. Je sais que plusieurs d'entre nous viendront pour le centre du jeudi, et puis sans doute le samedi matin aussi, et puis le dimanche. Vous pouvez vous lever. Je pense.